L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.
Jean Gutiérrez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Arts et Livres. Vous organisez la troisième édition de la fête du livre en Quai de Sorgue qui aura donc lieu dimanche 19 mai. Est-ce qu'on peut, pour commencer, faire une petite présentation de l'association Arts et Livres ?
Oui, bonjour à tous. L'association Arts et Livres est une association qui œuvre sur Sainte-Afrique et qui promeut le livre et les arts sous toutes ses formes. Nous avons plusieurs cordes à notre arc. La première corde, c'est ce que vous avez vu avec la journée du livre que nous organiserons cette année pour la troisième fois. Et aussi, nous avons une activité ciné-club. Nous avons aussi une activité conférence. Donc, les Saint-Africains peuvent faire appel à nous pour tout ce qui est culture au sens large.
C'est donc la troisième édition de la fête du livre en Quai de Sorgue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe de cette fête ?
Alors, le principe de la fête est celui-ci, c'est-à-dire que sur les quais de Sorgue, tout le long de la Sorgue, les auteurs viennent avec leur présentation et leur livre présenter à leurs lecteurs, que nous attendons nombreux ce jour-là, leurs écrits, et peuvent parler de leurs écrits, de leurs romans, et tout ça avec tous les gens qui viennent participer ce jour-là. Il est évident qu'ils mettent aussi en vente leurs livres, ils peuvent les dédicacer. Voilà un petit peu le sens général. Nous avons ajouté pour cette année une façon de présentation, c'est-à-dire que les auteurs feront une présentation devant le public de quelques morceaux de leur ouvrage.
Il y a plus de 60 auteurs qui sont invités. Alors il y en a qui reviennent tous les ans, et puis il y en a des nouveaux. Est-ce que vous souhaitez nous parler de quelques-uns de ces auteurs ?
Oui, alors, chaque année, nous avons, comme c'est la troisième fois, nous avons une base, on va dire, fidèle qui nous suit et qui vient présenter ses livres. Alors, dans les fidèles, on peut citer Béteille, on peut citer Garrick, tout ça, qui sont des auteurs régionaux connus et reconnus. Ou sinon, après, cette année, nous avons quelques auteurs nouveaux et quelques éditeurs aussi. Alors, dans les auteurs nouveaux, nous avons un dessinateur qui mérite le détour, qui s'appelle Pascal Crossi. Donc, lui, il vient pour la première année. Je vous invite à venir découvrir un petit peu ses dessins. C'est vraiment extraordinaire. Il a un coup de crayon assez extraordinaire. Puis, nous avons plusieurs auteurs qui viennent aussi pour la première année, qui travaillent autour du bien-vivre et du bien-être. Style Isabelle Ricinio-Héleroux, qui fait des dessins, qui parle de nourriture, qui parle de tout ce qui tourne autour de la table, qui est à découvrir aussi. Nous avons aussi deux éditeurs, trois éditeurs même, qui sont intéressants. Un éditeur qui s'appelle Letradoc, donc il va venir avec les éditions Occitane. Il est connu du centre africain parce qu'ils sont déjà venus sur la bibliothèque et tout ça. Et puis un éditeur qui s'appelle Édition Mare Nostrum, qui a plusieurs cordes à son arc, des polars et autres. Donc là aussi, que je vous invite à découvrir. Et un éditeur pour les tout jeunes, c'est les éditions Taille Page. Donc là, il y a tout ce qui concerne les livres jeunesse, en fait, en règle générale. Nous avons aussi une nouveauté, nous avons une école, l'école de Montlore, qui va venir nous présenter un petit livre qui tourne autour de l'histoire. Donc c'est l'histoire un petit peu de la résistance ou d'un maquis plus ou moins imaginaire qui se déroule autour de Montlore. Voilà.
Est-ce que des animations sont prévues ?
Oui, comme chaque année, nous avons les animations. Nous avons les Amis des Arts qui viennent s'occuper des enfants et des plus grands, faire une journée, on va dire, autour du graphisme, qui est déjà prévu. Donc ça, c'est l'association Les Amis des Arts qui vient nous prêter main forte. Nous avons aussi une autre association, qui est l'association Lire et Faire Lire, qui viennent lire pour les tout-petits. Donc là, il y a deux ateliers, un atelier le matin, un atelier l'après-midi.
Et il y a une fanfare, il me semble, à midi.
Alors là, oui. c'est toujours pareil, c'est la fanfare, les abeilles. Donc les abeilles qui viennent faire l'animation musicale autour de l'apéritif, autour de midi, et comme chaque année, en fait. Bon, c'est une bande de joyeux drilles qui sont très connus sur le secteur. Je ne sais pas s'ils arriveront déguisés en abeilles cette année, mais enfin, bon, on verra bien.
Jean Gutierrez, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ?
Oui, qu'est-ce que nous pouvons ajouter ? Alors, la première chose que nous pouvons ajouter, c'est que nous aimerions, pour cette année, avoir le beau temps. Donc, si vous avez des possibilités de commandes de soleil, faites-le pour nous, parce que bon, ça serait très intéressant que nous puissions avoir une journée ensoleillée et que nous ne soyons pas obligés de nous replier sur la salle des fêtes, comme nous l'avons fait l'an dernier, pour cause de mauvais temps d'ailleurs. Et ce que nous pouvons dire aussi, c'est que nous faisons l'appel à tous ceux qui veulent bien vouloir nous aider, parce que bon, ce jour-là, nous avons besoin de bras et de pas mal de volontaires pour porter les tables et pour mettre tout ça en place. Voilà.
Merci Jean Gutierrez. On rappelle donc que la fête du livre en quai de Sorgue, c'est dimanche et que c'est de 10h à 17h.
Oui, c'est tout à fait, c'est de 10h à 17h. Donc les auteurs seront installés un petit peu plus tôt, mais vous êtes attendus nombreux à partir de 10h. Venez nous rejoindre, ça nous fera énormément de plaisir et aux auteurs aussi.
Stéphane Bertrand vit dans le Midi où il enseigne le français et les langues étrangères. Il a voyagé un peu partout dans le monde et ramené de ses périples des récits en prose ou poétiques dont certains ont été couronnés par des prix littéraires et notamment le prix Max-Paul Fouché, décerné en 2007 par le Castor Astral pour son recueil « Premier dit du Colibri ». Le Colibri sait tenir les minutes d'un procès. Il lui suffit de battre des ailes. Les colibris butinent l'absente de tout bouquet. Sur un toboggan, tu peux rejoindre quelques instants un colibri, mais tu es un enfant et tu sais encore abandonner tes ombres. Tu souris aussi à l'épicière qui te donne des points colibris à coller sur des feuilles. De mémoire de colibri, si je ferme les yeux, un peu, un petit peu seulement, dans ce grand soleil serti d'un immeuble, caressé tout au long de ftava et d'eau, la belle guide me mène encore dans la pièce au parquet d'écureuils brillants. Mais de longs pétales aux fenêtres, installe des colibris slaves dans ses yeux, puis, aux plumes de son ventre, me révèle ma petite révolution de velours. On a suspendu des bateaux aux voûtes de Notre-Dame de la Garde. Pour les lignes soulignées de sel, pour les paupières rubescentes des crépuscules et les baisers d'écume sur ses paupières. On a suspendu des bateaux parce que le colibri est le rêve réalisé de ce poisson qui marche et rêve de voler. Et combien de vérins pour nos capitaineries incertaines. On a suspendu à tes lèvres des colibris qui t'attendent. Mais fais vite, maintenant. Michel Villanueva, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit plusieurs ouvrages, en particulier sur l'Algérie. Le dernier s'intitule « L'Algérie une, unique et multiple ». Vous serez présente à la fête du livre en Quai de Sorgue à Saint-Affrique. Alors avant de parler de vos livres, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ?
Bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même lié au livre. Je suis historienne et littéraire, ce qui fait que, bon, dans mes ouvrages, il y a toujours le sérieux de l'historienne, mais l'approche littéraire, donc ça peut lire souvent comme des romans, même si ça n'en est pas. Autrement, bah maintenant, je vis en Aveyron depuis une dizaine d'années. Je suis née à Oran, en Algérie, et ce n'est qu'en 65 que je suis revenue en France, au moment du coup d'État de Boubiane contre Ben Bella. Et depuis, ben, j'ai vécu à Paris et maintenant je vis dans l'Aveyron.
Alors l'Algérie, elle reste vraiment au cœur de votre intérêt, de votre vie. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce thème. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, je ne dirais pas que ce soit essentiellement au cœur de ce que j'écris. Bon, c'est mon premier livre. J'ai attendu 30 ans, comme tout le monde, avant d'écrire sur l'Algérie. Essentiellement parce que je ne voulais pas rouvrir des plaies dans la famille, puisqu'il y a eu des positions différentes pendant la guerre d'Algérie. Et effectivement, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire. De même, si j'ai fait des études d'histoire, et si je suis devenue enseignante en histoire, ce n'est pas par hasard, parce que j'étais plutôt littéraire. Mais je voulais comprendre ce qui se passait, ce qui s'était passé en Algérie, parce que je ne comprenais pas bien. D'où l'intérêt à ce moment-là d'études d'histoire. Et dans tout ce que j'écris, parce que je ne suis pas pour une nostalgie, la nostalgie de l'Algérie, ce n'est pas ça du tout. Même si je me sens liée à l'Algérie, c'est plus une volonté de comprendre un événement qui a traversé ma vie, comme elle a traversé la vie de beaucoup de gens. Mon premier livre, donc, s'appelle « Les Charades, chronique du mémoire d'Algérie », publié par Maurice Nadeau en 1992. Et c'est souvent dans tous les salons du livre que je peux faire, que ce soit à Paris, dans l'Aveyron, ou même ça a été à La Havane, à Cuba, bah c'est toujours le livre qui remporte le plus d'intérêt parce que c'est encore un événement qui marque encore le pays et qui marque les populations. Alors soit les gens qui l'ont vécu, soit les enfants qui n'ont pas entendu les parents en parler, soit aussi bon, toutes les conséquences de ces guerres coloniales qui ont lieu encore en France, ne serait-ce que dans les banlieues, et qui traînent avec elles bon, des problèmes qui ne sont pas résolus. Donc ça a été ce premier livre.
Vous avez enseigné à La Havane, à oui. Cuba, et écrit aussi sur ce pays. Oui. Le peuple cubain aux prises avec son histoire, qui est Viva Cuba, je ne sais pas si je prononce bien, qui a été publié en 2004 chez L'Harmattan. Oui. Alors pourquoi Cuba ?
Cuba, ça a été un hasard. Après un drame un peu qui a traversé ma vie, je voulais un peu changer d'idée. Après un voyage que j'avais fait à Cuba, un peu par hasard, c'est-à-dire que Cuba m'intéressait parce que j'avais des amis qui défendaient absolument le système, d'autres au contraire qui disaient « mais non, c'est pas ça le socialisme ». J'avais envie de voir par moi-même et un jour dans un café parisien, j'ai vu qu'on pouvait aller chez l'habitant. Et c'est ce qui a déclenché chez moi l'envie d'aller à La Havane. Donc j'y étais d'abord en 99, puis j'y ai travaillé en 2000, je suis retournée plusieurs fois. Et là c'est pareil, c'est bon, d'abord j'ai un sentiment d'amitié profond avec les Cubains. C'est un pays magnifique, c'est un pays où on est très bien accueilli aussi. Et par certains aspects, pour moi, hein, je dis bien pour moi, La Havane recouvrait d'une certaine manière Oran. C'était deux villes espagnoles, parce que l'Algérie que j'ai connue, c'était Oran essentiellement, ville en grande partie espagnole. Et je trouvais même, c'est étonnant, les trottoirs de La Havane, je retrouvais dans mon souvenir et mon imaginaire, d'Oran, c'était les mêmes carreaux. c'est assez étonnant. Et puis il y a les lions du Prado de La Havane et ceux d'Oran devant la mairie d'Oran sont pratiquement les mêmes. Il y avait une espèce de vie méditerranéenne transportée bien sûr dans cette île tropicale. Et c'était pour moi étonnant, c'était pas volontaire du tout, c'était absolument un hasard. Et bon, je me suis retrouvée donc confrontée là aussi à une volonté de comprendre ce système qui est complexe. Parce qu'en France, où on l'admire bêtement et d'une certaine manière, bon, on est ébahi, ou bien on veut le détruire. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des tas de valeurs à Cuba qui ne sont pas celles qui sont ici, mais qui sont réelles. Et bon, dans le monde que l'on vit aujourd'hui, savoir qu'il y a plus de médecins à Cuba qu'en France, c'est quand même étonnant que les écoles fonctionnent mieux qu'ici. Bon, alors en même temps, il y a des problèmes, c'est sûr, hein, mais ça, je ne les cache pas, mais j'avais une volonté surtout de comprendre comment le système fonctionnait. Parce que quand on est là-bas, on est souvent bénévole, donc on vit chez l'habitant, on va sur les mêmes marchés, on prend les mêmes bus. À part le loyer qu'on paye en devises étrangères chez l'habitant, tout le reste, on peut vivre exactement comme les Cubains. Et c'est ce qui est intéressant quand on veut connaître un pays, c'est d'approcher aussi par l'intermédiaire de ses habitants. Mais à part Cuba, pour revenir à ce que nous disions sur l'Algérie, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est j'ai écrit d'autres livres collectifs. Et c'est ça, c'est intéressant. Je peux vous en parler d'un, par exemple, qui s'appelle « Mon père », qui est un ouvrage collectif. Ce sont des filles du Maghreb qui racontent leur père. Et les pères sont tous nés au Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, surtout Algérie. Ils sont de tous milieux sociaux, ouvriers comme cadres, fellahs comme colons, et de tous milieux confessionnels, c'est-à-dire vous avez le milieu juif, chrétien, musulman, athée. Et nous avons dû tout écrire en 7-8 pages et photos du père. Et là aussi, c'est une approche peut-être différente que lorsqu'on écrit un livre complet sur l'Algérie. Une approche différente, mais extrêmement intéressante. Et on voit aussi les liens entre la France, l'Algérie, au moment de la colonisation, par exemple, les pères juifs qui ont perdu la nationalité française au moment de Pétain, les pères algériens qui ont choisi un camp ou l'autre, les pères présents ou absents. C'est un livre très intéressant dont on n'a pas énormément parlé, qui est un livre qui a été fait par une maison d'édition qui est à cheval entre Montpellier et Alger, enfin, qui est surtout à Montpellier, c'est « Chèvrefeuille étoilée ». C'était un livre paru en mars 2007.
Et donc là, toujours pour en rester sur l'Algérie, votre dernier ouvrage, donc, c'est « L'Algérie une, unique et multiple ». Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
C'est un texte court sur le cinquantenaire de l'Algérie, parce que ça fait partie aussi d'un ouvrage collectif. Mais justement, c'est comment on peut tenter aujourd'hui de faire un pont sur ces 50 années, sur ce qui s'est passé en Algérie, ce qui se passe en France, les liens réciproques des deux pays. Et pour moi, c'était important, je le disais tout à l'heure, de pas faire jouer uniquement la nostalgie, mais d'essayer de faire travailler l'histoire et d'en arriver à une vision plus objective possible. Je sais bien que dans ce domaine, vous allez me dire, il y a tellement de subjectivité, c'est vrai, mais on peut essayer justement d'être le plus objectif possible. Et pour moi, c'est important. Et il y a une seconde partie qui est un collage historico politique, si vous voulez, entre la peste de Camus à Oran et 25 ans plus tard, l'OAS à Oran. Et c'est absolument extraordinaire de voir comment on peut calquer deux moments complètement différents historiques.
Je voulais en venir un peu plus au récit, à la fiction, avec votre recueil de nouvelles Ombres et Lumières, qui lui est récent, il a été publié en 2011, aux éditions Un Autre Regard. Oui. Alors, ce recueil de nouvelles, est-ce qu'il y a un lien, un thème qui relie toutes les nouvelles qui sont dans ce recueil ?
Il y a vraiment des nouvelles différentes. Parfois, justement, c'est vrai qu'il y a un lien entre différentes nouvelles. Là, c'est toujours cette volonté de plonger dans le monde qui nous entoure. Par exemple, des nouvelles qui parlent de l'ex-Yougoslavie, d'Europe centrale. De toute manière, quel que soit le sujet que j'aborde, il est toujours lié à notre monde, à notre société. Ça change un peu, justement, je sais que quand je suis dans ces salons du livre, j'ai beaucoup de collègues avec qui je m'entends très bien, etc., mais qui parlent beaucoup de l'Aveyron, beaucoup de notre région, et je comprends très bien, moi je finirai aussi par en parler un jour, mais moi je fais voyager un peu les gens, si vous voulez, je fais voyager un peu notre esprit, je trouve qu'il y a tellement de richesses aussi ailleurs, il y en a autour de nous, là, on est plongé dedans, mais il y en a aussi ailleurs, et c'est ce à quoi je tiens.
Vous avez aussi écrit un récit, La Dernière Représentation, paru en 2007.
Oui.
Qui est un peu autobiographique.
C'est différent parce qu'il s'agit du récit qui m'enseigne une intermittente du spectacle. Ses choix, ses réussites, son bonheur de vivre et son mal de vivre. Et donc c'est quelque chose qui me touche personnellement. Et en même temps, là aussi, ça plonge aussi dans ce que sont tous les intermittents du spectacle avec tous leurs problèmes, parce que tous connaissent ces problèmes-là de chômage technique, réel. C'est aussi le lien entre la création, parce qu'elle commence à être connue et elle était très appréciée dans son métier, mais en même temps, c'est très difficile d'avoir du travail. Donc le lien entre ce qu'on peut jouer au théâtre ou au cinéma et puis la vie dans le réel. Et en même temps, bon, ce livre se veut aussi une mise en cause d'institutions psychiatriques. Alors pas forcément de tous les psychiatres, hein, ni même de toute la psychiatrie, mais de l'institution telle qu'elle est souvent vécue aujourd'hui encore. Donc c'est un thème un peu différent.
Michel Villanueva, qu'est-ce que vous attendez de la fête du livre en Quai de Sorgue ?
Bah écoutez, la première fois que je suis venue à la fête du livre en Quai de Sorgue, c'était formidable. Il faisait cette année-là un magnifique soleil. Nous étions vraiment sur les quais de la Sorgue. Et moi, ce que j'aime dans ces salons du livre, c'est la rencontre avec les populations. Avant d'avoir fait les salons du livre en Aveyron, j'en avais fait à Paris, j'avais fait à La Havane, j'avais fait des salons du livre différents. Où là, il y a un contact, moi que j'apprécie beaucoup, avec des gens qui lisent. Certains lisent beaucoup, certains lisent un peu et viennent quand même chercher auprès des auteurs parfois de quoi renforcer leur envie de lire et de découvrir des livres. Donc j'attends beaucoup toujours de ces salons du livre et je trouve que c'est très enrichissant de part et d'autre, de la part des auteurs aussi, parce qu'on écoute les gens qui viennent, hein. On écoute les gens qui parlent, pour moi c'est important.
Michel Villanueva, ben merci beaucoup.
Oui, merci à vous.
On vous retrouve donc à la fête du livre en Quai de Sorgue, dimanche 19 mai.
Exactement.
L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.